Bonsoir, c'est Jean-Marie Marcos pour Radio Axe. Et ce soir, ma nouvelle émission Invitation au bonheur démarre avec un nouvel invité. Et pour cette cinquième émission, j'ai invité Didier. Et Didier, je vais te demander de te présenter, mais de façon, voilà, peut-être originale. Comment tu te présenterais si tu devais te présenter à quelqu'un en présentant quelqu'un d'autre?
Ah, alors j'expliquerai en disant, imaginez un entremetteur qui fait le lien entre, par exemple, une entreprise qui recherche une personne et, pour un poste et une personne qui recherche un poste. Est-ce qu'ils ont besoin de moi pour se rencontrer? Dans l'absolu, non. Mais au-delà de provoquer la rencontre, je recherche des valeurs qu'ils partagent ensemble et qui sont le point de départ à tout démarrage et pérennité dans le temps. Ça, c'est un petit peu mon métier, c'est ce que je fais aujourd'hui.
D'accord. Donc tu t'es présenté en présentant d'abord ton métier. Maintenant, si tu te présentais en te présentant toi en tant que personne.
Ah, en tant que personne, j'avoue que alors mon métier déteint sur moi puisque c'est un petit peu la relation qui m'intéresse, mais si vous voulez en savoir plus sur mon état, sur qui je suis un père de deux filles d'âgées de plus de 50 ans et qui aujourd'hui est un, je dirais, vit une expérience depuis quelques années et des rencontres assez satisfaisantes. Voilà, donc aujourd'hui c'est un petit peu mon quotidien. Je pense que j'ai réussi à allier ce que j'avais envie de faire avec ce que je fais, et voilà un petit peu qui je suis aujourd'hui.
Merci. Et donc ton nom c'est?
Mon nom c'est Didier Liger.
Merci. Et donc Didier, moi je l'ai rencontré il y a quelques années maintenant. Je l'ai rencontré dans le cadre du GEBS. Le GEBS, c'est le groupement des entreprises des boucles de Seine. Et bien nous avons travaillé ensemble, nous sommes appréciés et nous avons aussi collaboré pour imaginer aussi des actions professionnelles en partenaire. Donc c'est vraiment, Didier est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et notamment parce qu'il a parlé de quelque chose de très important qui sont les valeurs. Alors justement, les valeurs et le bonheur, est-ce que c'est un lien entre les deux d'après toi?
Oui, parce que j'ai le sentiment qu'il y a une prédisposition, que sans vouloir le chercher à tout prix, à un moment donné, on arrive dans une forme de satisfaction quand on arrive à être pleinement en accord entre ce qu'on fait et ce qu'on vit. Voilà, c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui.
Et tu trouves l'expression et le respect de tes valeurs dans tes activités professionnelles?
Oui, tout à fait. Oui, aujourd'hui, le fait de... de créer de la rencontre entre des personnes qui fait en sorte de leur redonner, pour certains de les remettre au travail, ou pour d'autres de les faire démarrer. Je pense que ça a du sens parce que c'est une fonction aujourd'hui qu'on peut difficilement éviter, le fait de travailler, le fait d'avoir de mettre des gens dans un environnement heureux entre guillemets, je sentais qu'on puisse être heureux dans l'environnement professionnel, mais au moins bienveillant. C'est quelque chose qui me plaît, et provendait, c'est qu'ils y restent.
Mais là, tu as touché du doigt quelque chose, moi, qui m'intéresse tout particulièrement, parce que tu as dit, si tant est qu'on puisse être heureux dans le milieu professionnel, dans le monde professionnel, et le bonheur au travail, alors, est-ce que ça existe, le bonheur au travail?
Oui, l'épanouissement au travail, à mon avis, il existe. Aujourd'hui, je pense qu'on a une... quand on est bien dans ce qu'on fait, quand on aime ce qu'on fait, je pense qu'on a une plénitude, parce que s'il faut attendre d'être rentré chez soi, ou la nuit, ou la sacro-sainte retraite pour être heureux, je pense qu'on a passé, on est peut-être passé un peu à côté de son existence. Mais oui, ça n'engage que moi.
Eh bien, moi, je te suis là-dessus, parce qu'en effet, c'est bien des sujets qui m'intéressent tout particulièrement. Et je crois profondément, c'est ma croyance profonde, en tout cas, que oui, nous pouvons être heureux au travail. Non seulement nous pouvons nous sentir bien au travail, on parle de bien-être au travail, mais souvent, on fait le lien entre bien-être et performance. Et il y a quelque chose qui me gêne un petit peu, parce que du coup, si on le ferait dans l'intérêt, en effet, de pouvoir en tirer un intérêt financier pour l'entreprise, par exemple. J'aimerais, en effet, que cette notion de bien-être soit aussi une question de bien-être personnel aussi, qu'on y trouve aussi un intérêt, comme tu disais, une forme d'épanouissement. On parle aussi de satisfaction, on parle de qualité de vie au travail, mais tout ça nous parle aussi d'un environnement, c'est-à-dire mettre en place un environnement qui permettrait aux gens, en effet, de se sentir mieux au travail. Moi, je pense que le bonheur, c'est quelque chose aussi d'intérieur, et qu'on peut être heureux au travail même si l'environnement n'est pas terrible. On peut être heureux au travail même si on n'est pas aussi payé qu'on le souhaiterait ou qu'on le rêverait, parce qu'on y trouve aussi un sens à sa vie, et qu'on y passe beaucoup de temps, et qu'on y est heureux d'y être allé. Voilà. Donc, si on se lève le matin avec le plaisir d'aller au travail, je pense que c'est un élément très important du bonheur au travail. Alors, justement, si on parle de bonheur, puisque cette émission, c'est une invitation au bonheur, le sujet est central, à quoi ressemble ton bonheur, Didier?
Aujourd'hui, le, si je dois définir mon bonheur, c'est d'être, c'est peut-être un petit peu présomptueux, mais d'être où je veux, quand je veux et avec qui je veux. Ça, c'est une donne importante pour moi. Et je te rejoins sur l'idée que le bonheur doit pas rimer avec performance, mais quand on est heureux dans ce qu'on fait, fatalement, on le fait bien, on est bon et globalement, on est, à mon sens, performant. Mais tout dépend, je précise bien l'ordre des choses. Je pense que c'est parce qu'on est heureux de faire ce qu'on fait qu'on devient performant. Et c'est pas en voulant la performance à tout prix, en mettant du bonheur dans le travail, de façon étatique, qu'on va y arriver.
C'est clair. Donc ton bonheur, il ressemble à quoi aujourd'hui? Il ressemble à la liberté, si j'ai bien compris.
Oui, c'est une grosse dose de liberté qui me fait pas oublier quand même que je dois mettre en face tous les éléments de sécurité qui permettent de vivre et de faire vivre la famille. Mais aujourd'hui, j'arrive à avoir cet équilibre et plus ça va, plus il penche vers le côté liberté.
D'accord. Donc ça veut dire que tu t'offres un cadre minimum pour y trouver un maximum de liberté, c'est ça, si j'entends bien?
Oui, ça veut dire que je pense faire ce qu'il faut pour assurer la sécurité, mais à partir du moment où c'est assez plaisant et que ça fonctionne, bah, ça me donne une forme de liberté de plus en plus grande.
Aujourd'hui, tu m'as dit, voilà, tu as la cinquantaine, ça veut dire tu arrives aussi à un moment de la vie où on se pose peut-être des questions sur ce qu'on va faire ensuite du oui. temps qui nous reste. Hein. On dit souvent qu'on a deux vies et que la deuxième commence quand on a pris conscience qu'on en a qu'une. Ce moment de la cinquantaine, c'est ce que Carl Jung appelait l'individuation. C'est un moment où on prend conscience, en effet, du temps qui passe très très vite et où on se dit, mais voilà, il est peut-être temps de faire des choses qui me plaisent, qui me rendent vraiment heureux, qui me font vraiment plaisir et qui m'épanouissent. Donc on fait quelquefois des choix importants, que ce soit professionnel oui, ou personnel. Mais du coup, est-ce que tu peux dire que ta notion de bonheur a changé avec le temps?
Oui, elle a basculé un petit peu. Ça veut dire que j'ai été à une époque dans la période de la construction, je dirais à partir de la trentaine. La construction de la famille, la construction professionnelle, la construction financière, la construction peut-être immobilière. Donc à courir après des choses qui étaient des éléments apportant cette sécurité. Et puis, alors, une partie de tout ça a été réalisée. Et maintenant, aujourd'hui, c'est, je dirais que je suis plus dans l'être que dans l'avoir aujourd'hui. C'est un peu le sentiment que j'ai. Je ne recherche plus la possession à tout prix, mais plutôt avoir, donner. Je crois que la seule chose qu'on maîtrise pas bien au début de sa carrière, c'est le temps. Et donner du temps, je pense que c'est la seule richesse qu'on puisse vraiment avoir et qui n'est pas matérialisée financièrement.
On y revient souvent, cette notion de temps. Hein. Je pense que
oui,
c'est à la fois ce qu'on a de plus précieux, ce qui nous file entre les doigts à tout moment, et en même temps, c'est de se dire voilà, ce temps, comment le donner aussi, comment l'offrir aux autres, le fait d'être aussi dans des opérations, on va dire bénévoles, hein. Tu interviens aussi en bénévolat, je pense, oui. Au groupement par exemple, qui occupe du temps, c'est un temps qui est choisi, bien sûr, c'est quelque chose qui aussi nous rend heureux, c'est-à-dire que dans les différentes formes de bonheur, il y a un des bonheurs qui vient du fait de savoir qu'on est utile au monde, qu'on va rendre service aux autres. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi?
Oui, tout à fait, parce que ce temps, il n'est pas uniquement d'avoir du temps pour moi, c'est effectivement de le partager avec d'autres et en plein accord, et oui, c'est quelque chose que je ressens. Mais là, j'ai l'impression d'arriver vers un terrain que j'ai connu un petit peu, que j'ai abordé avec quelqu'un il y a quelques temps.
Sur... y a quelque chose qui m'intéresse aussi, si on parle du temps, par exemple, c'est aussi la notion du temps. La notion du temps qui est très différente dans nos différents âges de vie. Et dans cette émission, le hasard a fait que j'ai commencé par un enfant, que j'en ai aussi interviewé d'autres, et j'ai très envie encore d'avoir à ta place des enfants qui viendront répondre à ces questions et qui viendront partager avec nous leur richesse, leur intelligence du bonheur. Et chez les enfants, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'ils vivent vraiment intensément dans l'instant présent. Le passé pour eux passe très très vite. Enfin, quand on a 6 ans, le fait d'avoir 2 ans, on l'a complètement oublié. On ne sait plus ce que c'est. Et même il y a 6 mois, on peut dire qu'il y a 15 jours ou 6 mois, on ne fait pas la différence. Et quant au futur pour eux, ça ne veut pas dire grand chose en fait. Ils sont vraiment complètement ancrés dans l'instant présent. Donc j'aime bien aussi savoir, lorsque j'ai un adulte en face de moi, finalement, est-ce que si tu repars dans ta mémoire, si tu essaies de retrouver la façon dont tu abordais la vie quand tu avais, par exemple, 6-7 ans, bah, 7 ans, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse bien, qu'est-ce qui te rendait heureux, toi, à l'âge de 7 ans? Est-ce que tu as des souvenirs comme ça de bonheur d'enfant?
Oui, j'ai des souvenirs. J'étais assez bien entouré. Je faisais partie d'une petite famille dans le sens où j'étais fils unique, mais j'avais des très grands souvenirs de réunions de famille qui n'étaient pas fréquentes, mais sur lesquelles on avait un plaisir à aller, et des rencontres à l'école, plus des rencontres avec les copains d'école que l'école en elle-même d'ailleurs. Mais ça, c'est des moments dont je me souviens assez bien.
Des jeux d'école, qu'est-ce que si tu mettais le mot bonheur à l'âge de 7 ans quand tu étais, je sais pas, au CP, au CE1, ça, c'était quoi ton bonheur à ce moment-là?
Ouais, c'était le groupe, c'était retrouver les autres, c'était à peut-être plus partager avec les autres que apprendre. Bon, encore une fois, les souvenirs sont un peu vagues, mais je me souviens que il y avait l'envie d'y aller le matin sans aucune difficulté, vraiment avec plaisir.
Tu te souviens plus de la récréation que des cours de maths, c'est ça?
Oui, clairement. Clairement. C'est un peu ça aujourd'hui que j'ai retrouvé d'ailleurs. J'aime bien le côté récréation plus que la partie sérieuse.
Alors, j'aimerais que tu nous dises aussi quel est le titre. Je t'avais demandé de préparer un titre, une musique qui te fait plaisir, quelque chose qui te rend heureux aussi. Et tu as choisi quel morceau?
Alors, j'ai choisi Breaking Away d'Al Jarreau.
Eh bien, on va écouter Breaking Away et tu nous en parleras tout à l'heure. Merci. We'll be right back. Bien, après l'écoute de ce morceau qui est plutôt joyeux, dis-moi, donc, qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce morceau plutôt qu'un autre, hein? Est-ce qu'il a une histoire pour toi, ce morceau?
Oui, il a une histoire de longue date. C'était quelque chose que j'aimais bien écouter quand j'étais adolescent. Donc, ça rappelle des souvenirs. Ça a un côté un peu nostalgique. Je trouve que la mélodie est belle. La voix de l'homme est particulière. Il y a un côté un peu suave. Bon, il a disparu maintenant, si je ne m'abuse. Mais, donc voilà. Ça me rappelle des bons souvenirs. Ça a un côté un petit peu, souvenir d'enfance, souvenir de... Des 20-25 ans.
Est-ce qu'il y a d'autres musiques comme ça qui te font le même effet, qui viennent faire ressurgir des émotions agréables du passé?
J'en ai pas nécessairement en tête parce que, en fait, j'aime bien écouter, enfin, là, les mélodies assez sympas, assez enlevées, quels que soient les thèmes. Bon, ça me fait assez, j'aime bien les écouter. Je suis pas un connaisseur en musique dans l'âme, mais je suis très éclectique et assez ouvert à pas mal de choses.
Puisqu'on parlait d'émotions et de musique, hein, quel rapport tu entretiens, toi, avec tes émotions?
Alors, j'ai le sentiment que je les accepte, c'est peut-être une évidence, mais je les ignore plus. Je pense que pendant longtemps, je les ai mises de côté, et puis maintenant, je les vois arriver, je les accepte.
Donc, il y a une phase de maturité par rapport aux émotions, le fait de les accueillir plus facilement, d'éviter de les oublier ou de les refuser.
Oui, ou tout simplement peut-être de les percevoir ou de les voir arriver ou de comprendre ce qu'elles veulent dire et ne pas se laisser emporter. C'est plutôt sur ce côté-là, oui.
Et quelles sont les émotions qui sont les plus présentes aujourd'hui lorsque tu regardes par rapport au bonheur? Je dirais, pour revenir sur la notion de bonheur, comment tu trouves un lien entre tes émotions et le bonheur?
Il y a une forme assez globale d'optimisme ou de joie de vivre. J'ai vraiment le sentiment aujourd'hui que les choses vont bien se passer, quel que soit ce que je vais faire. J'ai un aspect assez positif sur ce qui va se passer, la façon dont ça va se passer. J'ai absolument pas de questionnement ou d'angoisse ou de choses négatives quand je démarre quelque chose, quelle que soit la chose que ce soit.
Ça veut dire que tu as apprivoisé des peurs que tu pouvais avoir dans le passé?
Peur, je sais pas. Ça veut dire que j'ai une meilleure peut-être maîtrise de ce qui va se passer ou une meilleure confiance dans ce qui va se passer.
D'accord. C'est pour ça que je te parle de peur, parce que c'est cet optimisme qui est lié dans la confiance, qui est le fait d'être dans l'espoir de quelque chose de meilleur qui devrait théoriquement arriver. En tout cas, on y croit. La confiance a à voir avec la peur, en fait. C'est-à-dire que on pourrait dire presque que la confiance est le contraire de la peur. La confiance, oui, c'est ce témoin qui te dit, voilà, tes besoins de sécurité sont nourris. Donc ça veut dire que tu es dans un environnement qui est rassurant et tu as la liberté de pouvoir te mouvoir, de pouvoir penser, parler, t'exprimer, etc. Et à partir du moment où tu as ces deux éléments, en effet, la confiance est présente. Et si la confiance est présente, en effet, elle vient supplanter la peur. Donc cette notion de confiance dans l'avenir, voilà, ça veut dire que tu as réussi à avoir autour de toi un environnement qui te rassure et tu te laisses des espaces de liberté, comme tu disais tout à l'heure.
Oui, tout à fait. C'est une construction qui s'est faite au fil du temps. Et pourtant, on pourrait penser que la sécurité d'un indépendant est peut-être moins évidente que celle d'un salarié. Mais curieusement, je me sens beaucoup plus en sécurité depuis que je travaille pour moi que d'être salarié.
Voilà, donc pour les auditeurs, Didier a développé donc son activité en solo, en indépendant. L'activité donc de recrutement, d'assistance et d'aide, de conseil en recrutement pour les entreprises. Justement, donc ta maturité, t'as appris quelque chose sur le bonheur, t'as appris à le sentir différemment, l'anticiper, de le garder, le savourer différemment?
Oui, enfin, disons que chaque petite victoire ou chaque chose réussie est participe à ce bonheur. Et puis c'est surtout en amont de ça, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'avoir réussi quelque chose pour me dire ça va bien. Je suis dans une dynamique où les choses s'enchaînent. Ça veut dire que j'essaye de faire les choses de façon régulière, de façon assidue, et ça me rend confiant dans la pérennité. Et la pérennité de mon activité m'amène la pérennité de ma famille, du reste. Donc c'est une sorte d'ensemble, c'est une sorte de mécano qui s'est monté et qui aujourd'hui fonctionne bien et suffisamment et me laisse à côté tout un territoire et un champ de liberté.
Et ton optimisme, il était déjà présent jusqu'à présent ou depuis longtemps, ou tu as le sentiment qu'il évolue aussi, ton optimisme?
Alors j'ai le sentiment qu'il était présent, parce que j'ai jamais été quelqu'un de foncièrement inquiet. Disons que pour moi, j'avais besoin de peut-être de rassurer, ou j'étais inquiet pour les autres, surtout au moment où on devient père et en responsabilité. Je pense qu'on a plus peur pour les autres que pour soi. On s'estime peut-être infaillible ou invincible. Et je dirais que oui, ça se renforce. Ça se renforce de plus en plus. Il y avait un terreau qui était peut-être favorable, mais je dirais que cet optimisme se renforce, oui.
Viens maintenant à une question que j'aime bien poser, qui est justement, aurais-tu, toi, une question à me poser? Est-ce que tu avais envie de me poser une question autour de la thématique du bonheur? Bien sûr, restons dans le thème.
Ah.
Si tu avais une question à me poser, ce serait laquelle?
Alors, je t'avoue que j'y réfléchis un petit peu à lister quelles questions je peux poser à Jean-Marie. J'ai pas de réponse à cette question sur la question. Ça paraît bizarre quand même de pas avoir de questionnement sur le bonheur. Ça veut pas dire que j'en ai fait le tour, mais comment fait-on pour que ça continue? Ça pourrait être ça, ma question.
Comment fait-on pour que ça continue? C'est-à-dire, existe-t-il une technique, un moyen, une méthode pour entretenir le bonheur?
Un
c'est
bonheur
ça
puissance 2, puissance 3, puissance 6.
Donc, comment assurer la maintenance, l'entretien d'une belle machine qui fonctionne comme ça et qui nous rendrait heureux? Alors, pour répondre à cette question, qu'est-ce qui me vient d'abord à l'esprit? Il me vient d'abord à l'esprit que le bonheur, c'est à la fois une quête, c'est aussi un état d'esprit, je pense. Ça veut dire que le fait d'être heureux, c'est aussi, il y a quelque chose aussi de volontaire dedans. Donc ça veut dire qu'il y a un entraînement à regarder, à poser un regard différent sur les situations, sur les gens, sur ce qui nous arrive. Et ensuite, même si nous arrivent des difficultés, même si on rencontre des personnes qui ne sont pas forcément, qui ne nous portent pas forcément de considération ou l'intérêt ou ce qu'on attendrait d'eux, eh bien, à ce moment-là, on reste heureux dans le sens où on va continuer à en tirer quand même quelque chose de positif. Donc, l'entretien du bonheur, c'est aussi d'entretenir aussi le fait de continuer à savourer ce qui se passe, continuer à porter un regard avec le moins de jugement possible sur ce qui nous arrive. Si ce sont les personnes ou les situations, c'est de savourer chaque petite conquête, chaque petit succès, comme tu l'as dit tout à l'heure, et en même temps être capable, lorsqu'on a une difficulté, lorsqu'on rencontre des pièges, lorsqu'on tombe dans des pièges ou qu'on n'est pas dans le moment idéal, c'est de se dire, mais finalement, qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que je vais maintenant ne plus refaire pour ne pas me retrouver dans cette situation-là? Et ce qui fait que même une difficulté devient une leçon. Et peut-être que c'est comme ça qu'on entretient le bonheur aussi. On l'entretient aussi en prenant encore plus conscience de l'instant présent. Donc en pratiquant aussi un regard qui permet de savourer ce qui se passe à tout moment, de prendre conscience de ce qui se passe, mais on peut aussi le faire à travers la méditation, d'autres à travers le yoga ou le qigong ou d'autres pratiques, ça peut être la sophrologie, mais ça peut être aussi de bénéficier d'un coaching qui va nous faire réfléchir sur ce que nous vivons, sur la façon dont nous abordons les sujets qui nous concernent directement et ce que l'on veut réellement dans la vie. Tu disais tout à l'heure que tu vas vers moins d'avoir et plus d'être. Mmh. Je pense que le bonheur aussi, c'est de se garder à tout moment de tout ce qui est avoir un lien avec le paraître. C'est-à-dire, il y a beaucoup de situations, de paroles, ou de moyens qui sont très superficiels. Et juste d'en prendre conscience permet en effet de nous recentrer sur nous-mêmes et de faire un pas de plus vers l'être. Donc, si tu n'avais pas vraiment de questions à me poser, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, par contre? Silence. Alors, tu sais ce qu'on va faire?
Oui.
C'est qu'on va tirer une question au hasard. Donc, j'ai un petit jeu qui est très sympa, qui s'appelle Anti-Sava, pour éviter toutes les questions aussi simples que ça va, parce que ça va, ça, c'est pas une réponse très intéressante. Donc, voilà, il y a des questions de différentes couleurs, un peu légères, un peu plus profondes et puis très profondes. Ah. Alors, je vais te laisser choisir une question au hasard. Voilà, tu prends une question au hasard et puis tu la lis et tu me dis quelle est la question.
Alors, quel est le compliment que tu souhaiterais que l'on te fasse? Donc ça s'adresse
qu'est-ce
à toi
serait
ou à
plus
moi
beau. Ça s'adresse à toi. Donc du coup, c'est pas moi qui pose la question, c'est ma petite carte. Quel serait le plus beau compliment que tu aimerais qu'on te fasse?
Ah, c'est pas facile, c'est un peu comme si on demandait à des gens quelles sont leurs qualités et leurs défauts.
Mais dis donc, ça t'arrive jamais, toi, le recruteur?
Jamais.
Non,
non, très sérieusement, c'est la question que je me pose.
C'est la question tellement bateau.
Ah, je peux pas en tirer une autre.
Joue le jeu jusqu'au bout. Toi, hein. Alors, quel serait le plus beau compliment que tu aimerais qu'on te fasse? Alors, il y a une grande réflexion actuellement chez Didier.
Oui, il y a un an, je passe. Je sais pas, reste avec nous, reviens.
Voilà.
Reviens autour de la table.
Donc, le plus beau compliment serait autour de ta présence, en fait, c'est ça. C'est le fait d'accueillir et puis d'apprécier ta présence.
Oui, oui, tout à fait. Oui. Le fait de se sentir, voilà, apprécié, pas plus.
Donc là, le coach réagit. En effet, je pense que parmi nos différents moyens de rentrer en contact avec notre environnement et notamment la façon dont nous prenons nos décisions, ça c'est le même BTI qui le dit, et donc Carl Jung, c'est pas moi, nous dit en effet que certaines personnes préfèrent être jugées en fait ou être reconnues par le résultat de ce qu'elles proposent, hein, parce qu'elles réalisent par leur travail. Et ces personnes-là répondraient à cette question en disant, ben, moi, pardon, le plus beau compliment, c'est, eh bien, tu as fait un travail merveilleux, quoi. Tu as vraiment réussi à obtenir un superbe résultat et grâce à toi, etc. Et les personnes qui sont plutôt intéressées par le côté plutôt humain et côté lié aux sentiments, lié aux émotions, lié à la relation à l'autre, vont plutôt dire, ben moi le plus beau compliment c'est on a vraiment besoin de toi pour réussir ça, on n'aurait jamais réussi à le faire sans toi par exemple. Je pense que c'est plutôt cette catégorie là.
C'est plutôt sur cette seconde catégorie.
Oui. D'accord. Bon, ben écoute, on arrive à la fin de notre entretien. Et puis, écoutez, avant de passer aussi un titre de ma playlist du bonheur, je vais, chaque semaine, eh bien, vous conter un petit conte de sagesse. Et Didier et moi, on aime beaucoup plaisanter ensemble, on aime beaucoup l'humour et on a toujours une tendance naturelle à rire de beaucoup de choses. J'ai trouvé ce petit conte assez intéressant et je vais vous le conter. Voilà, ça s'appelle Le poids du beurre. Le boulanger d'une petite ville achetait son beurre à un fermier de la localité. Un jour, en rentrant chez lui, le boulanger pesa le beurre qui venait de lui être vendu et se rendit compte, alors, que le fermier avait réduit la quantité de beurre tout en exigeant le même prix. Il accusa le fermier de fraude, lui intenta un procès et tous deux se retrouvèrent devant le juge. Celui-ci demanda au fermier « Pour peser votre beurre, avez-vous des poids à mesurer ?»« Non, monsieur. »« Mais comment faites-vous alors pour mesurer le beurre que vous vendez ?» Le fermier répondit. « Eh bien, lorsque le boulanger a commencé à acheter son beurre chez moi, j'ai pensé qu'il était juste que j'achète mon pain chez lui. Depuis ce jour, j'utilise son pain d'un demi-kilo comme mesure pour le beurre que je vends. » Qu'est-ce que ce conte génère en toi?
Bah, oui, retour à l'envoyeur et je trouve pas l'expression, mais
il y a quelque chose de l'arroseur arrosé. Quand
oui,
même,
c'est hein. C'est pas retour à l'envoyeur, c'est plutôt l'arroseur ou l'arrosé, c'est effectivement la feinte de dire bah c'est celui que j'utilise donc qui est le premier fautif, qui est le premier coupable.
Ben c'est aussi de voir de voir la paille dans l'œil de l'autre et pas la poutre qui est dans la sienne aussi. Il y a quelque chose aussi de ça. Donc j'aime bien cette sagesse aussi de dire voilà peut-être peser aussi ses mots avant de vouloir porter un jugement sur l'autre. Et moi alors dans l'histoire, est-ce que vraiment je suis suffisamment au clair pour pouvoir porter un jugement sur l'autre? Voilà pourquoi j'avais envie de partager cette petite historiette. pleine de sagesse et très très courte parce que en effet le temps passe, on arrive déjà à la fin de l'émission. Donc Invitation au Bonheur est bientôt terminée pour ce soir. Je vais d'abord vous passer un petit titre. Et là, j'ai choisi pour vous un titre qui s'appelle Losing Touch de Killers, un groupe que j'aime beaucoup et une musique qui est très joyeuse, voilà, qui me plaît énormément. Et donc, avant de passer ce morceau, je vais donc prendre congé donc de cette semaine. Merci Didier pour ta participation. Tu as été un des premiers à accepter d'être invité dans cette nouvelle émission et de jouer le jeu. Merci beaucoup. Et donc, c'était Invitation au Bonheur sur Radio Axe. Je vous attends la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et d'ici là, soyez heureux.
True.